Chapitre 13. Allant ailleurs. John Jasper passe de nouveau le seuil de la maison malfamée du quartier de l'Est, cherchant ce que des milliers d'hommes, meilleurs et pires que lui, ont cherché depuis le commencement des choses. Il cherche l'oubli pour un temps. N'est-il pas dangereux de rechercher, d'une autre façon que celle qui est marquée par le ciel, le sommeil, le bienfaisant sommeil, le consolateur par excellence pour un temps, le sommeil dont on ne craint que la durée éternelle? Est-il sage de jouir d'un repos passager qui ne peut que se changer en misère plus grande, que ce soit le vin ou quelque puissante stupéfiante qui nous offre contre le chagrin ou le remords un refuge menteur? Jasper ne le pense point. Le temps est venu pour lui où le plus grand bonheur en ce monde est une gorgée des eaux du Lethé. N'être plus, peu importe comment, et pendant un moment, ni lui-même, ni un autre, ni rien. N'avoir plus, pendant un court espace avec le monde, aucun lieu de pensée, de sentiment, de sensation, d'espoir, de crainte, d'amour, de haine, de vengeance, être réellement une des herbes silencieuses du fleuve de l'oubli, c'est là, pour lui, le bien suprême. Il a trouvé ici plus d'une fois, et à des degrés bien différents, suivant les mouvements de son propre cœur et le progrès du sombre savoir d'autrui. Combien ce repos avait été doux et complet la dernière fois, alors qu'il le cherchait presque sans espoir? Comme il était tombé, semblable à une pierre jetée au milieu de l'eau noire, où elle produit à peine quelques rides. Et comme il s'était réveillé sans effort, un peu affaibli de corps peut-être, mais si rafraîchi d'esprit. Aucun effort pénible pour s'endormir cette fois. Pas de lutte horrible avec les démons qu'il avait si longtemps troublés. Cette dernière épreuve avait été pour lui aussi heureuse que la première, alors que ses nerfs avaient toute leur fraîcheur, toute leur sensibilité. Il avait retrouvé ce qu'il croyait un pouvoir perdu, le pouvoir de s'oublier lui-même. Il avait reconquis une jouissance usée, la jouissance de la mort dans la vie. Et pourquoi, tout plein de ce souvenir et de cette tentation, n'essaierait-il pas encore? Pourquoi ceux d'entre nous qui ont mangé du fruit volé ou foulé un terrain défendu ou violé une loi de la conscience sans en avoir souffert grand dommage, pourquoi cela s'arrêterait-il? Une main invisible peut bien écrire sur la muraille et sous les yeux du coupable « trop tard ». Quelques prophéties ont été accomplies, mais l'ont-elles été toutes? D'autres mains ont écrit sur d'autres murs, d'autres paroles que celles inscrites sur les murs du palais de Balthazar. Mais les Mèdes et les Perses sont-ils toujours arrivés? Jasper a bien des raisons de rechercher l'oubli. Depuis sa dernière visite aux bouges de la vieille, il a vu le spectre de la crypte et entendu le tonnerre éclatant sur la cathédrale. Les fantômes l'environnent et le pressent. Il a gardé la chambre depuis son dernier accident, laissant l'office s'accomplir sans lui, refusant les visites de condoléances et n'acceptant que les lettres. Et malgré cela, la nuit dernière, il s'est approché de la fenêtre, fasciné par le même pouvoir diabolique, et là, repoussant le rideau pour regarder au dehors, il a vu le plus effrayant des fantômes, celui qui le poursuit sans cesse sous la forme d'un chien, mais plus terrible qu'aucun chien de chair et d'os. Il a vu là, assis, droit, noir, sombre, immuable, incrusté dans le pavé. Et ce matin même, Dieu du ciel, le souvenir suffit pour le rendre fou. Ce matin, il a vu des serpents se glisser sur le parquet de sa chambre, çà et là, sous les chaises, sur les touches du piano, puis rentrer dans le vieux mur humide, d'où sans doute ils étaient sortis. Il est venu, désertant son lit et sa chambre, pour essayer encore une fois. Il a été si faible une partie de la journée qu'il n'a pu quitter Clusterham que tard et il n'est arrivé qu'avec la nuit. Il n'a pas fixé d'heure à la vieille. Une crise l'a saisi à l'hôtel au moment où il allait souper. Ce mal subi a alarmé les domestiques et lui-même un moment et a retardé sa visite encore. Il est plus de minuit quand il passe le seuil de l'antre de la vieille. Il est étrangement nerveux, tandis qu'il commence à monter l'escalier obscur, à demi ruiné, qu'il a monté si souvent. Est-il donc toujours sous l'influence de la matinée? Peut-être, car il tremble en cheminant à travers la vieille masure, vouée à toutes sortes de crimes et de vices. Il ne peut s'empêcher de penser que dans les cabinets des paliers qu'il traverse en trébuchant sont cachés des lascars et des chinois et des marins dépravés par les lointains voyages, tout un monde grimaçant et luttant contre les fumées du narcotique maudit. Autant de furieux serrant dans leurs mains des poignards dont ils essaient de frapper tous ceux qui les approchent. Ils croient entendre leur respiration haletante. Mais ce n'est peut-être que le bruit produit par les rats qui circulent sous les murs. Il passe, agité par ses terreurs. Il arrive à la porte bien connue, ouverte dans l'obscurité du dehors, et laissant voir ce qui est pire que l'obscurité. Il entre, il voit contre la misérable fenêtre éclairée par la cour les deux colonnes du lit qui coupent verticalement cette fenêtre en deux panneaux inégaux. Il voit, à un point éloigné de la chambre, une étincelle qui éveille dans son esprit l'idée de l'œil d'un tigre brillant au milieu d'une jungle. Plus près, entre le lit et l'étincelle, une forme indécise qui se balance en avant et en arrière, en balbutiant des paroles à demi étouffées par une toux sépulcrale. Mais ses yeux s'habituent à ces ténèbres. Il a mal fait de ne pas arranger sa visite d'avance, car une forme vague et immobile est étendue sur le lit. Il s'approche. Le fantôme l'enferme dans ses bras. Comme les sensations du malheureux sont vives ce soir. Bien des fois, il a reposé sur ce lit et présenté un spectacle presque aussi repoussant que la brute qui y est maintenant étendue. Bien des fois, il a vu là d'autres dormeurs, et cependant, jamais il n'a éprouvé un dégoût et une horreur pareille de la vieille femme, du lieu et de tous ceux qui le fréquentent, y compris lui-même. Il recule, il va sortir avant d'avoir été reconnu par la mégère. Mais il demeure fasciné par les serpents dorés se chassant l'un l'autre qui sortent du fourneau de sa pipe. La vieille recommande pour son compte l'usage de sa médecine et la première en fait usage pour calmer sa toux et ses maux. Jasper s'approche. Quelle répugnance pourrait le faire renoncer au soulagement qu'il vient chercher de si loin? Il s'avance, le bruit de ses pas arrive à la vieille, malgré la demi-insensibilité où elle est plongée. Elle pose sa pipe, se met sur ses pieds et réussit à trouver une allumette au milieu d'un accès de toux et à allumer la chandelle. « Qui êtes-vous, chérie, pour venir trouver la pauvre vieille dans la nuit? Attendez une minute, nous allons avoir de la lumière, quoique ma toux soit bien mauvaise et que ma tête tremble comme si elle voulait tomber. Qui êtes-vous ? Oh ! » La chandelle est allumée et elle a vu son visage. C'est ce qui lui arrache ses exclamations que son auditeur ne peut comprendre. Sur cette figure ridée, décolorée, inerte, une expression passe que John Jasper ferait bien de lire pour l'amour de son âme et de son salut. Mais il ne voit rien sur cet abominable visage, il ne devine point la satisfaction qui l'anime, il ne sait pas y lire la vengeance. « Oui, dit-il, vous voyez qui c'est, n'est-ce pas ?»« Oui, chérie, je vois ce que c'est, » murmura-t-elle. Et elle pose la chandelle de façon à ce qu'elle n'éclaire pas trop vivement la forme dégoûtante étendue sur le lit. En même temps, elle est prise par un accès de toux qui la fait retomber sur sa chaise et menace de la mettre en pièces. « Mais vous venez bien brusquement vers la pauvre vieille, chérie. Pourquoi ne pas lui avoir fait dire, elle se serait tenue prête ?» « Peu importe, répond-il brusquement, je suppose que vous êtes toujours assez prête quand j'accepte de voir quelqu'un ici, à moins que vous n'ayez eu tant d'ouvrages ce soir que vous ne vouliez plus rien. En ce cas, je puis trouver ailleurs ce que je désire. »« Oh, non, non, chérie, dit-elle. Oh, non, non, les affaires sont bien mauvaises et mes pauvres poumons sont liés avec des cordes qui me coupent quand je tousse. Oh là, oh, pauvre de moi !» Voilà tout ce que j'ai eu ce soir. Ce voleur de chinois, et il s'est endormi avec la moitié seulement de ses pipes. Oh, ma pauvre tête, elle se brise. Assez, dit-il sévèrement, moins de paroles. Je vous avais dit que je reviendrai dans quelques jours, peut-être, et me voici. Oui, chérie, je vous comprends, interrompt la vieille entre deux horribles accès de toux qui hachent ses mots d'une façon pitoyable. « Vous voulez un peu du nouveau mélange qui vous a fait partir si facilement l'autre fois? Vous n'avez pas dit un seul mot. Savez-vous cela, chérie ? Oui, j'en veux si vous en avez. Pouvez-vous le préparer justement comme l'autre fois? Attention, ne me volez pas ou vous me voyez pour la dernière fois. N'ayez peur, chérie. Oh là, mes poumons sont en morceaux. Le prix du nouveau mélange a augmenté, chérie, et il vous faudra payer en conséquence. Mais la pauvre vieille en a encore qui vous attend. Elle va vous le préparer en 2 minutes si vous voulez ne pas être si dur avec elle quand elle souffre tant. Bien, dit-il d'un air satisfait, vous pouvez le préparer alors. Vous m'en donnerez assez pour me faire dormir plus longtemps que l'autre fois, songez-y bien. Attendez, il faut ôter cette charogne de là. Pensez-vous que je vais m'étendre à côté de lui? Oh, nous sommes délicats et particuliers, mon chéri, ce soir. Peut-être parce que nous réussissons dans nos affaires. Faites donc ce que vous voudrez. Donnez des coups de pied au Chinois, peut-être qu'il s'éveillera. Il n'a pas eu du nouveau mélange, lui, car la pauvre vieille le réserve pour ceux qui peuvent la payer. Elle n'en prend pas elle-même. Le réveiller, dit Jasper, d'un ton de mépris féroce. Vous éveilleriez plutôt la colonne du lit, et si vous réussissiez, vous pourriez bien, d'ailleurs, recevoir son couteau entre les côtes. Oh, oh, je n'en ai pas envie. Là, ma tête éclate. Mais il n'a pas de couteau, chérie. La pauvre vieille veille à cela quand elle a affaire aux Chinois. Il n'a pas de couteau, chérie, mais... Mais quoi? Si vous n'aimez pas à le voir ici, où personne n'a le droit de se trouver que vous, chérie, nous pouvons l'emporter. Où? Dehors, là, dans le passage. Il y en a bien d'autres qui ont dormi là quand il n'y avait plus de place ici. 3 minutes après, avec plus de force qu'il n'aurait supposé en avoir encore, et toujours avec cette énergie qui survivait à sa vigueur, John Jasper avait arraché le misérable Chinois du lit et l'avait traîné dans le passage. Le pauvre diable ne s'éveilla point. Pendant ce temps, la vieille lui préparait le mélange. Debout, près de la petite table boiteuse devant la fenêtre, elle prend dans son corsage ce qu'elle y a si soigneusement gardé contre tout accident, afin de le conserver pour lui, et charge le fourneau de la pipe d'une telle quantité du mélange du docteur Chippercoin que le docteur en frémirait et que Joe Guilford courait à l'eau froide. Elle a donc volé une forte part du narcotique terrible. Elle a vu qu'une petite dose produisait le sommeil, mais pour peu de temps, bien qu'il fût profond. Elle est persuadée qu'il faut 2 fois cette quantité, avec un homme comme Jasper, pour amener cette stupeur prolongée, nécessaire à ses projets. Elle a juré d'ouvrir ses lèvres jusque la muette. Elle décèlera cette bouche de pierre. Le mélange est prêt quand John Jasper entre de sa petite excursion dans le couloir et referme la porte. La physionomie de la vieille a repris son expression ordinaire. Elle lui présente la pipe. « C'est pour vous, chérie, bon et fort, et vous partirez plus vite que jamais. Oh là, mes poumons! Oh là, ma tête !» Il la regarde fixement, mu par un sentiment dont il ne peut se rendre compte, et s'arrête au moment d'ôter sa redingote. Le soupçon se lit dans son regard, qui glace le peu de sang demeuré dans les veines de la vieille. Il lui dit d'une voix dure et stridente, « Ah, ça, la vieille, pas de badinage ce soir. Si ce n'est pas ce que vous prétendez, si ce n'est pas le même que la dernière fois, faites attention à vous, car je m'en souviendrai et je m'arrangerai avec vous de pire façon que vous ne pensez. Je ne me bornerai pas à ne point vous donner l'argent. Prenez garde. » « Qu'est-ce que vous voulez dire, chérie? Moi, si malade, avec cette mauvaise toux et ma tête qui se fend comme une bûche. » Si vous désirez que la pauvre vieille jure, chérie, elle jurera que le mélange est juste ce que vous avez eu la dernière fois, rien de plus. Que Dieu lui soit en aide. Très bien. S'il avait eu quelques doutes, s'il avait enfin reconnu dans les manières de la mégère quelque chose qui pût exciter ses soupçons, ils étaient effacés. Il ôte sa redingote, s'assied sur le pied du lit, occupé tout à l'heure par l'horrible Chinois, et peut-être encore chaud de la pression de son corps. Il place le tuyau de la pipe entre ses lèvres et aspire quelques bouffées. Ses yeux ternes s'illuminent. C'est bien le même, il opère comme l'autre. Ne pensez plus à ce que j'ai dit, murmura-t-il d'une voix toute différente, l'esprit s'adoucissant sous l'influence du repos qui le gagne. Ah, les voilà qui reviennent! Les sons mélodieux, les formes charmantes, les brillantes couleurs. Ciel, que cela est beau! Faites attention que personne ne me dérange aussi longtemps que je dormirai, ou bien, j'irai ailleurs. Il s'est renversé sur le lit et le tuyau de la pipe demeure entre ses lèvres. Il respire bruyamment mais régulièrement, absorbant le narcotique à chaque mouvement des poumons, et la chambre se remplit d'une âcre senteur. La vieille, assise près de lui, pour surveiller le moment où elle pourra commencer son expérience, absorbe plus de narcotiques qu'elle ne voudrait. Le repos la gagne à son tour. Sa toux est calmée, tous ses nerfs se détendent. Elle aussi, les yeux ouverts et regardant le dormeur, et attendant le moment où elle pourra vous faire parler, chérie, elle aussi entend des sons délicieux, elle aussi voit des couleurs brillantes, et ses yeux se sont fermés sans qu'elle s'en doute. Encore quelques minutes, et la voilà tout assoupie, comme le dormeur même, mais pas d'un sommeil aussi profond. Le temps que ce sommeil a duré, elle n'en sait rien quand elle s'éveille. Une demi-heure, une heure peut-être. Elle se lève avec effort et elle voit John Jasper étendu comme elle l'a laissé, la tête renversée en arrière et la main droite fermée, le tuyau de pipe est toujours entre ses lèvres. Tout n'est pas perdu, bien qu'elle ait cédé au sommeil. Il dort toujours, mais il ne faut pas perdre de temps, il faut agir. Sa tête est encore un peu lourde, elle essaie pourtant de se souvenir exactement du manège de Joe Guilford. Jasper dort si bien qu'elle n'a pas besoin de passer derrière le lit, elle se penche sur lui et pose ses deux mains, comme elle l'a vu faire par le beau garçon, l'une sur le sommet de la tête du dormeur, l'autre sur la paume de la main gauche, qui heureusement est ouverte. Au moment où elle la touche, elle pousse un cri de terreur, recule, revient et se jette sur Jasper. Qu'a-t-elle donc découvert? Quoi donc? Elle applique sa vieille face et son oreille sur la bouche du dormeur, pousse un nouveau cri et cherche de ses doigts tremblants à sentir le pouls. Puis, avec un autre cri, mêlé de rage et de terreur, elle se dirige en boitant vers la table, y prend un verre d'eau et le jette à la figure de Jasper. Un hurlement prolongé s'échappe cette fois de sa gorge, entre deux accès de toux, elle se jette de nouveau sur le lit, saisit la cravate de Jasper, l'arrache, ouvre sa chemise et pose une de ses mains sur la poitrine nue, à l'endroit du cœur. Ce cœur ne bat plus. Il faut que Jasper dorme bien profondément, n'est-ce pas? Ce n'est pas un sommeil léger que celui qui résulte des plus habiles préparations du docteur Chippercoin. Mais l'épaule de Jasper est découverte. La vieille a rugi. Elle arrache la chemise pour mieux voir et demeure immobile. Puis, levant la main, elle la laisse retomber sur cette épaule amaigrie. Là est une étrange cicatrice, une tache de naissance peut-être. Les yeux avides de la vieille y restent fixés, sa toux, ses cris, ses gémissements ont cessé. « C'était bien lui, » dit-elle. Au milieu de la cicatrice se dessinent deux lettres d'un blanc livide sur un fond d'un rouge pourpre, T.F. Elle se redresse alors, ricanant et frottant ses mains de spectre. La trosse joie du mal semble dominer sa terreur. Elle étend un de ses oies osseux et tremblants vers la forme immobile étendue sur le lit et l'apostrophe à haute voix. « La pauvre vieille a réussi, chérie, après tout. Tu n'as pas bien gardé tes secrets vis-à-vis d'elle, quoique tu en sois mort. Tu n'as pas toujours été jeune Jasper, chérie. Non, tu n'étais pas Jasper, quand ta langue menteuse te nommait Jean Jourmeau et que tu jetais ta gourme là-bas, de l'autre côté de l'eau, quand tu m'as séduite en chantant, puis volé l'unique enfant que j'eusse au monde. Ce n'était qu'une danseuse d'opéra, mais c'était ma fille. Je t'avais bien reconnue, chérie. Je n'ai jamais pu tirer de toi une parole. Si je l'avais pu, la pauvre vieille t'aurait renvoyée depuis longtemps aux galères de Toulon, où l'on t'avait mis pour avoir tué celui qui avait pris sa défense à elle, où l'on t'a fait présent de cette jolie marque, chérie, et où tu serais encore si tu n'avais pas eu le talent de t'évader, puis de devenir un autre homme. Elle est retombée sur sa chaise boiteuse, épuisée, toussant et étouffant, comme si sa dernière heure était venue, et c'est de là que, trop faible pour se lever, elle agite encore ce terrible doigt de squelette. « Tu es allée dans un endroit bien pire que le bagne, chérie, et c'est la pauvre vieille qui t'y a envoyé. C'est elle. Tu as parlé, chérie, comme j'avais juré que tu parlerais, avec ta peau, sinon avec tes lèvres. Et la vieille ? Oh, pauvre moi, mes poumons sont en lambeaux et ma tête éclate. Ta belle famille ne saura jamais rien de ta mort, ni comment elle est arrivée. Mais la vieille est avec toi jusqu'au bout, chérie. Faites attention que personne ne me dérange aussi longtemps que je dormirai, ou bien j'irai ailleurs. » Tels ont été les derniers mots de John Jasper avant de se livrer à son sommeil maudit. Il a, sans le vouloir, accompli sa menace. Rien ne l'a dérangé, rien ne le dérangera jusqu'à ce que sonne la trompette du jugement à laquelle il croyait à demi l'autre jour en entendant les éclats du tonnerre sur la cathédrale de Cloisterham. À demi seulement.